Il me semble qu'on doit toujours faire effort pour nous chrétiens de dépasser la simple lecture anecdotique ou regarder uniquement les choses à travers un prisme sociologique ou géopolitique. Et il me semblait important d'aider les chrétiens à décrypter dans les événements en Tunisie dont ils se sentaient proches, finalement, ce que le Seigneur voulait nous dire. Parce qu'on affirme que l'Esprit travaille au cœur de l'histoire humaine, et pas seulement chez les chrétiens, pas seulement dans le cœur des chrétiens, mais dans le cœur de tous les hommes. Et il me semble que ce qui s'est passé en Tunisie était une interpellation pour nous, chrétiens, dans notre propre foi.
Justement, vous observez au cœur de ces événements une dynamique pascale. Comment développez-vous cette réflexion ?
Tout est parti dans ces événements de Tunisie de la mort tragique d'un jeune de 26 ans, Mohamed, jeune étudiant, diplômé, sans travail, qui survivait en vendant des fruits et des légumes. Et ayant été arrêté par la police, qui lui a confisqué son échoppe, il a posé ce geste fou de s'immoler par le feu, qui en dit long sur son désespoir. Et c'est cet événement fou, bien sûr dans la foi on ne peut pas accepter, se mettre fin à sa vie, qui a été déclencheur d'un mouvement de sursaut pour la vie. Et il me semble que pour un chrétien, ça consonne avec ce mystère pascal, mourir pour vivre, donner sa vie pour que d'autres aient la vie. C'est la dynamique même de l'existence du Christ. Et le Concile nous dit, il nous faut tenir que tout homme voit l'Esprit Saint lui offrir, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Il me semble qu'il faut pouvoir aller jusque-là dans la lecture de cet événement.
Vous saluez la force du peuple tunisien, une force qui réside en particulier dans le choix de la non-violence.
Oui, et puis vous savez que aujourd'hui la société corse est inquiète devant la violence qui se déchaîne chez elle. Il y a une violence endémique. Donc il y a toute une réflexion en Corse sur cette violence. Pourquoi la violence? Comment enrayer la violence? Et je trouve que là, dans ce qui s'est vécu au cœur du peuple tunisien, ce qui m'a frappé, c'est ce refus de répondre à la violence par la violence. Les gens du peuple qui réclamaient la liberté, qui réclamaient le droit de vivre dignement, avoir un travail, pouvoir nourrir leur famille. Il y avait des ouvriers, il y avait des étudiants, il y avait des fonctionnaires, des avocats, des enseignants. Tout ce peuple a choisi de sortir au risque de leur vie parce qu'en face, il y avait une police armée qui tirait, il y a eu des morts. Et ils ont choisi de ne pas recourir aux armes et de ne pas s'engager dans cette spirale de la violence. Et comme chrétien, je crois que ça nous parle de l'attitude du Christ qui, devant la violence qui s'est déchaînée, a accepté de ne pas répondre. Et il a manifesté finalement une force de résistance à cette violence, parce que quand la violence n'est pas nourrie par une autre violence en face d'elle, elle se perd dans le vide. Et c'est l'expérience même de la croix du Christ. Mort, où est ta victoire, interroge-t-on, parce que les forces de violence se déchaînent, mais si on ne leur répond pas, eh bien ils se perdent dans le vide. Et pour moi, je crois qu'il y a là un message que les chrétiens de Corse doivent pouvoir redécouvrir et accueillir, c'est que la réponse à la violence est contre-productive.
À travers cette relecture croyante des événements de Tunisie, c'est en fait à vos paroissiens que vous vous adressez. Vous appelez en quelque sorte les Corses à un réveil des consciences.
Oui, je crois que c'est tout à fait dans le sens du message du Saint-Père pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié. On est une seule famille humaine, il y a une destinée commune où, comme Jean-Paul II rappelait dans son message pour la journée de la paix en janvier 2005, on est appelé à vivre une citoyenneté mondiale. Et le titre de ce message de la paix, c'était « Ne réponds pas au mal par le mal, mais essaye de vaincre le mal par le bien ». Et je trouve que c'est très significatif de cette unité de la famille humaine animée par l'unique esprit du Christ, que ce témoignage qu'on peut rendre le bien victorieux sans répondre au mal par le mal, que cette vérité de l'Évangile nous soit rappelé par un peuple qui se réfère à une autre tradition religieuse, l'islam. Ça prouve que ce que nous dit le Concile, que la présence de l'esprit au cœur des traditions culturelles et religieuses de l'humanité, ça se révèle. Et je voulais décrypter en quelque sorte ce que l'esprit a à dire à notre Église en Corse à travers l'exemple de ce peuple tunisien.
En quoi ces événements de Tunisie, à la fois tragiques mais aussi historiques, constituent-ils, d'un point de vue chrétien, une espérance en l'avenir pour le peuple tunisien, mais également pour l'humanité tout entière?
Le peuple tunisien nous donne un exemple. On peut très bien manifester notre volonté de vivre de façon libre et digne humainement, sans recourir à la force armée, en choisissant des voies qui tournaient le dos à la violence, qui tournaient le dos à la corruption. Et il me semble qu'il y a là un beau signe d'espérance. Comme je disais dans le titre de mon éditorial, la corruption et la violence sont vouées à l'échec, ils n'ont pas d'avenir. Ce qui a un avenir, c'est finalement cette recherche de l'intérêt général, du bien commun. C'est cette recherche de fraternité et de liberté par des voies qui refusent absolument toute forme de violence. Il me semble que c'est un bel exemple et un beau signe d'espérance. L'avenir n'appartient pas à ceux qui recourent à la corruption et à la violence des armes. L'avenir appartient aux artisans de paix, aux artisans de justice. Je crois qu'à travers ce que vit le peuple tunisien, c'est l'esprit du Christ qui fait signe à l'humanité pour redire les chemins de l'avenir.